Tu lis quoi, toi? Vous lisez quoi, vous? Nous lisons quoi, nous?
Virlangue. Groupe de mots difficiles à articuler, assemblés dans un but ludique ou pour servir d'exercice d'élocution. Si près, ces si près seront sciés. Si souris sous si lit, souris sans souci à si chat sur si lit. Natacha n'attacha pas son chat qui s'échappa. Cela fâcha Sacha qui chassa Natacha. Sacha s'assit sur sa chéchia et caressa son chat Sancho. Le méchant chien chasse en cherchant le chat dans les champs. Trompe-oreille. Un trompe-oreille est une phrase difficile à comprendre, souvent formée de monosyllabes qui donne l'impression d'être en langues étrangères ou d'avoir une autre signification. Dis donc, Dina, dit-on. Du dodu, du dodu dodon. Geoffroy reprit trois fois du foie gras d'avoir frais. La mule a bu tant qu'elle n'a plus pu. Cabula nolac. L'anolac a bu l'eau. Pinicho. Wanishba. Unishibu. Ibu nish ni oniba. Il m'eut plus plu qu'il n'eut plus plu. Un troussifi. Un versimi. Voici quelques extraits de Virlangue et Trompe-oreille. C'est un livre qui a déjà quelques années, puisque c'est un livre qui a été réédité en 2020, écrit et dessiné par Henri Galeron, publié aux éditions des Grandes Personnes. Et cela nous faisait plaisir de commencer cette émission, cette 49e
émission. Vous avez réussi tous les Virlangues.
Et voilà, et là, je flanche sur 49e, c'est une déception totale. En tout cas, nous sommes ravis de vous retrouver. Je suis comme d'habitude avec Véronique. Bonjour Véro.
Bonjour Monsieur Simon.
Cette fois-ci, nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux, puisque nous avons notre magnifique ingénieur son, Philippe, qui nous accompagne depuis le début de cette émission. Et nous le remercions de cela. Et pour cette nouvelle émission, évidemment, on va parler de littérature jeunesse, comme d'habitude. On va parler de petite enfance, on va parler d'albums pour les grands. On va voir le vrac de Véro en vrac. On va avoir des coups de cœur. Et puis, on va avoir une petite surprise. On va avoir une interview d'un auteur qu'on aime beaucoup, enfin d'un scénariste qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Loïc Clément. On vous laisse découvrir la surprise. Mais comme d'habitude, on va commencer en musique. Cette fois-ci, aujourd'hui, nous avons choisi un groupe de chez nous qui s'appelle Bretelles et Garance. Et on écoute tout de suite l'extrait « La route ».
Je pense à toi, j'ai envie de toi, soir. Demain je m'en fiche, même si tu t'en vas. Hier est bien loin, aujourd'hui me va. Hier est bien loin, aujourd'hui me va. Pleine vie, la confiance au cœur, jette ta jalousie et j'oublie mes peurs. Si la route doit être encore un million, seulement dans la main ou de loin en loin, on s'aime tranquillement. Non, tu n'es pas bien, sans attendre. Sans peur, jamais en prison. Sans attendre, sans peur, jamais en
avoir, on pensait que c'était la fin, mais non, ce n'était pas la fin du morceau La Route de Bretelles et Garance. Alors Bretelles et Garance, qui sont-ce? Ce sont deux artistes polyformes mayennais qui s'appellent Vincent Ruche et Lise Moulin. Ils se définissent comme un groupe.
Un groupe?
Un groupe. C'est en fait une entité musicale formée par deux artistes qui partagent aussi bien leur vie professionnelle que leur vie privée.
Privé.
Le groupe.
C'est de ça.
Voilà, Bretelles et Garance s'est formé en 2004.
Un groupe qui tient.
C'est un groupe qui tient bien, aussi bien à la ville qu'à la maison. Et franchement, ils ont un univers très très fort qui se base essentiellement au début sur les chansons réalistes et puis qu'ils ont étoffé au fur et à mesure de leur spectacle et de leurs albums, puisque c'est leur troisième album qui est sorti en 2022. D'abord, ils avaient fait un petit EP, puis après, ils ont publié Folie douce et Mèche électrique. Et puis, ils reviennent avec ce troisième album qui est vraiment un album hyper, qui fait du bien. Voilà,
voilà. Toujours une très, très belle voix.
Bah, Lise Moulin, elle a vraiment une très jolie voix. Et puis musicalement, l'accordéon de Vincent, en fait, ça enrobe tout ça dans un très beau spectacle. Si vous avez l'occasion de les voir en spectacle, c'est vraiment très, très joli. Et je vous invite vraiment à découvrir. De toute façon, on écoutera d'autres petits morceaux au fur et à mesure de cette émission. Allez, on y va avec la littérature de jeunesse et on commence comme d'avitude par l'actualité.
Littérature de la jeunesse.
Voilà, notre jingle est toujours parfait, n'est-ce pas?
Nickel.
Et évidemment, en ce début de mois de février, il y avait un événement qui se passe tous les ans en fin de mois de janvier autour du livre. Évidemment, ce n'est pas que du livre jeunesse, mais il y en a, c'est le salon de la BD d'Angoulême, évidemment. Et lors de ce salon, les fauves sont décernées. Alors nous ne reviendrons pas...
Les fauves, c'est les statuettes, c'est les récompenses.
Tout à fait, oui. Pourquoi ça s'appelle fauve, d'ailleurs, je ne sais pas.
Je ne sais pas, faudrait creuser.
C'est les petits fauves, en fait. Hein, c'est les petits,
là, c'est les lionceaux.
C'est les petits lionceaux, voilà.
Ouais.
Là, c'est les petits, ouais, c'est les lionceaux pour la jeunesse.
Les lionceaux pour la jeunesse, ils vont être contents.
Les tigrous, c'est ça.
Les tigrous.
Eh bien, il y a deux livres, en tout cas, qui ont été récompensés. Et vous savez quoi? ces deux livres, on les a présentés lors des précédentes
émissions. Non, mais ils ont qu'à nous demander.
Non, mais de toute façon, c'est comme Montreuil. Hein,
c'est ça. S'ils
ont besoin d'aide
pour
leur sélection.
On est leur programmateur, il n'y a pas de problème.
On est là, il n'y a pas de problème. Donc, ces deux livres qui ont remporté les fauves à Angoulême, c'est La longue marche des dindes de Léonie Bichoche et Kathleen Carr à chez Rutsep. C'était l'adaptation du roman de Kathleen Carr, qui est absolument génial. Et puis Léonie Bischoff, elle a vraiment fait un travail absolument super sur cette bande dessinée. Et puis le deuxième titre, c'est Toutes les princesses meurent après minuit de Quentin Zution, publié au Lombard, on en avait parlé aussi. Une BD plutôt pour les grands, pour les ados et les adultes évidemment, mais qui est où Quentin Zution parle avec beaucoup de poésie de plein de sujets d'ailleurs, hein, de l'adolescence, de l'homosexualité, du rapport homme-femme. Enfin voilà, c'est absolument superbe et ça peut vraiment être lu par les ados. Donc nous sommes très heureux que ces deux BD soient récompensés à Angoulême. Bravo Angoulême, vous avez bien fait, c'est du bon travail. Allez, on parle de littérature maintenant, vraiment pour les plus jeunes, et on commence tout de suite avec un coup de cœur complètement un peu fou.
C'est Henri Meunier
et ça s'appelle Croque-cochon.
Croque-cochon d'Henri Meunier, on est au Rouergue, un livre cartonné, rectangulaire, et il s'agit d'un oiseau qui a décidé d'apprendre d'abord à compter à trois petits cochons, apprendre à compter les doigts dans le groin. Hein. Donc les trois petits cochons, ils sont un peu limites quand même au niveau matière grise.
C'est pas les plus malins du monde quand même.
Non, on peut pas dire.
Ils sont rigolos en même temps.
Oui, voilà, ils sont un peu bébés en plus.
Tellement,
C'est ça. Regardez, il y a des bonnes petites pommes, j'en compte plein, parce que l'oiseau a déposé 5 pommes devant les 3 petits cochons, donc en espérant qu'ils sachent compter jusqu'à 5. Plus que plein, ça, t'es au moins beaucoup, ça, c'est beaucoup. Allons, dit l'oiseau, hein, très docte. Il y en a 5, exactement 5. C'est facile, comptez après moi. 1, 2, 3, 4, 5. Et livre la partie.
1, 2, 6, 8, 11. 1, 2, 5, 6, 4. 1, 4, 3, 6.
Bon, on n'est pas sorti de l'auberge, là, et c'est pas tout à fait ça, dit l'oiseau, toujours très pédagogue. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça continue. 1, 8, 12, enfin bon, bref. Et le troisième dit, ça c'est trop dur. C'est trop dur ça. J'en mange one. En même temps, il s'est compté jusqu'à 1 en anglais. Hein. J'en mange one, ce sera plus facile. Et il gobe une pomme. Donc l'oiseau s'adapte. Hein, voilà, il n'y a plus que 4 pommes. Jusqu'au moment. Alors, encore trop dur ça, j'en mange one aussi. Enfin, c'est la foire. La foire au cochon là. Et il y a le loup, comme d'habitude, hein, qui arrive à ce moment-là et qui leur demande à quoi il joue. Enfin, à quoi jouez-vous, les amis? Et l'oiseau lui explique, toujours très calme, on apprend à compter jusqu'à 5 avec des pommes. Et puis quand c'est trop dur, on en mange one, qu'est dit le cochon. Ah oui, c'est bien ça, le loup a l'air très intéressé. Moi, j'adore compter jusqu'à 5 et manger des petites pommes. Super, montre-nous le loup, montre-nous. Oh, et on tourne la page et là, c'est noir. Le noir se fait. On devine vaguement une mâchoire de loup et ça dit « croque-cochon ». Et on tourne la page. Et là, bah, il reste 2 pommes. Enfin, là, on fait des maths. Hein. Là, c'est high level. Hein. 2 pommes et 3 petits chapeaux. Et le loup dit 1, 2, 3, 4, 5. Facile. L'oiseau, un petit peu désappointé quand même, dit « oui, c'est ça. Bravo. Voilà. » Et l'oiseau va leur apprendre les couleurs de la même façon, avec beaucoup de mal, hein. C'est pas facile. Le loup va venir aider.
À chaque fois, il vient aider.
Oui, voilà.
Ouais. Mais il se multiplie, les cochons, en fait. C'est comme les pains.
Ouais,
de...
Oui, c'est ça. Oui. Et les formes. Ils vont apprendre les formes aussi comme ça. Donc, voilà, vous pouvez aussi apprendre à compter de cette façon-là. Ils sont un peu à la ramasse quand même, les cochons. Hein. Ils sont toujours à côté de la plaque. Et puis, ça finit... Pas toujours très bien, enfin toujours très mal pour les cochons, voilà. C'est absolument désopilant, c'est ça le mot, désopilant. C'est drôle, c'est original, c'est du jamais vu.
Bah, et puis des livres pour apprendre à compter comme ça, moi j'en veux bien tout le temps.
Ouais, voilà, moi je suis prêt à me réconcilier avec les maths, il n'y a pas de souci.
Si c'est pour compter jusqu'à 5, ça va.
En plus, et puis j'ai pas besoin du loup, je crois que j'y arriverai.
Ouais, bon, d'accord. En tout cas, un très très bel petit album pour les petits. Bah moi, j'en ai un aussi. Et on reste avec des... Alors, c'est pas des petits cochons, mais cette fois-ci, on va aller voir les petits singes. Et cet album, il s'appelle « Que font les petits singes ?». C'est un album écrit et dessiné par Patomenia. Et c'est publié au Seuil Jeunesse. Alors, Patomenia, c'est un auteur chilien qui a vécu pas mal en Chili, qui vit maintenant en Espagne et qui, en Amérique du Sud, a été retenu par plusieurs prix. En fait, il a été reconnu par ses albums. Et il y a déjà un livre qui a déjà été traduit en France qui s'appelle « Un réveil de paresseux » qui est publié chez Kiman en 2022.
Ah oui.
Donc, je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver au fur et à mesure. Et « Que font les petits singes ?» C'est un album très mignon de petit format où on va suivre en fait... plusieurs petits singes, ils sont là, leur vie est simple, ils ont besoin de rien, la montagne est calme, enneigée, et puis tout d'un coup, à côté d'eux, il y a des petites pictos, en fait, des petits pictogrammes, et on comprend qu'ils ont froid parce qu'ils se serrent comme ça un peu les coudes, et ces petits pictogrammes, j'aurais dû le faire tout à l'heure,
on arrête de lire l'angle,
ouais. indiquent comme s'il y avait de la vapeur, des petits ouvriers, des petits comme ça. Bon, ok, ils ont tout ça en tête, et puis on les voit bouger de leur arbre, et puis là, ils vont aller dans les bains chauds.
Mmh. Ah oui, on est un petit peu au Japon.
Ah, ils sont trop bien, ils sont dans les bains chauds, ils sont trop bien. Puis après, ils ont faim. Alors du coup, on voit des petites cerises, en fait, ou des petites myrtilles qui sont dessinées comme ça en pictogramme, et puis on les voit, hop, ils vont manger toutes les cerises. Oh, c'est trop bon comme ça. Et ainsi de suite, comme ça, on va voir toute leur journée. En fait, il y a un petit peu de texte, mais à chaque fois qu'ils ont une envie, elle est représentée par ces petits pictogrammes. Mmh, d'accord. Et c'est vraiment mignon parce que les enfants vont découvrir, en fait, vont trouver par eux-mêmes quelle est la signification de ces pictos.
Passe la barrière de la lecture.
Exactement. Et donc, du coup, vont participer, en fait, à la lecture avec le lecteur qui va lire les mots. C'est très, très chouette. Moi, je l'ai testé auprès d'enfants et vraiment, ils se prennent au jeu. Alors, surtout qu'il y en a qui font très rire. Il y a le caca, il y a des choses comme ça.
Ah bah oui.
C'est comme l'emoji caca.
Oui, c'est ça. Ah, oui. Ouais. Oui, j'allais dire.
Et puis, il y en a un qui est assez mystérieux, espèce de tourbillon, comme ça on se demande bien ce qu'ils vont faire avec ce tourbillon, ils ont tout ça en tête. Ils vont monter tout en haut de la montagne, et le tourbillon,
il
évidemment...
Il va s'est
glissé. Oui, ils vont tourner comme ça.
Oh là là, comme on fait sur les dunes de sable.
Voilà, c'est super. Et puis après, ils auront refroid, et donc ils retourneront dans les bains chauds. C'est un petit album vraiment super mignon, qui marche très bien avec les tout-petits. L'illustration de Patomenia, moi, que je ne connaissais pas, je n'avais pas repéré, est vraiment plein de douceur. Voilà, tout au crayon.
On est chez Kiman aussi, là ?
On est au Seuil Jeunesse.
Au Seuil,
ouais,
d'accord.
Mais c'est vraiment un joli petit album. Voilà. Vous vouliez nous parler également, pour les tout-petits, d'un ouvrage assez particulier par son format, mais aussi par le fait que ce soit un livre sonore. Ce livre s'appelle « Maestra Evarista et son orchestre ». C'est un livre de Raquel Bonita chez La Montagne Secrète.
Oui. C'est vraiment original aussi, là, pour le coup, en tant qu'objet livre aussi, parce que c'est un livre panoramique, un peu comme un Leporello, mais pas tout à fait, c'est-à-dire qu'il n'en finit pas de se déplier. On ouvre une première page, et là, il s'agit d'une petite, moi je veux dire une petite lézarde, ou une grenouille, c'est plutôt une lézarde, je dirais, et c'est Maestra Evarista, qui est directrice d'orchestre et qui recrute des artistes en traînant son chariot d'instruments.
Vous savez quoi ? J'ai été chercher un peu de son. Donc on l'a, notre petite
héroïne.
Parce que
vous avez un petit QR code.
Exactement.
Et si vous scannez ce QR code, vous allez directement sur une
et
lecture.
Vous allez entendre ça.
La guenon loufoque n'arrête pas de sauter. Elle grimpe sur la liane, puis attrape le violon. Avec la guenon, j'en compte un. Mais le chariot reste lourd. Voyons voir si j'ai de la chance. Je continue ma quête. La tortue menue, lente mais talentueuse, trébuche et éternue, puis prend le tuba. Avec la tortue, ça fait deux. Mais le chariot reste lourd. Si j'étais musicienne, je continue ma quête.
Et voilà, c'était un petit extrait en fait de ce Maestra Evarista. Donc vous pouvez effectivement, quand vous avez le livre, en fait, scanner le QR code et vous allez avoir accès à la version audio.
Alors je ne sais pas si vous avez entendu la narratrice. Elle a un tout petit accent, mais qui est à croquer.
Tout
c'est
à fait.
Un petit accent de l'autre côté de l'Atlantique, comme on les aime bien. Un petit accent au goût de sirop d'érable.
Bah, la Montagne Secrète, de toute façon, c'est un éditeur voilà. Québécois. Donc
mais il est très léger son accent, mais c'est très agréable. Et le livre est très très agréable et original, puisque on ouvre comme Aller pour Hello d'abord. On a le texte en regard, un autre texte en regard. Et on... Alors, c'est compliqué à expliquer à la radio, mais on j'ai jamais lu.
On déplie le livre tout
on
en
déplie,
entier.
Mais pas d'un coup. On déplie étape par étape.
Comme voilà. Une couverture pliée.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça.
Ça marche
c'est
comme ça. Ça. Et on va avoir tout l'orchestre en fait de cette petite grenouille.
Qui va se constituer.
C'est pas une grenouille en fait tout simplement.
Non, il y a des gens qui disent que c'est une lézarde.
Ah. Eh bien, on va avoir tout son orchestre qui va se former au fur et à mesure de. Et
de la balade de ça y est, de Maestra Evarista.
Voilà.
Et aussi, je voulais attirer l'attention sur les illustrations qui sont sur des fonds noirs avec une typographie. Qui, à chaque musicien change de couleur et ça c'est comme des collages lumineux, couleurs parfois fluo, très très belles, très agréables, très chaudes aussi comme illustration. C'est vraiment un livre aussi qui fait du bien. C'est marqué album musical et je trouve ça très original et tellement facile d'accès en plus.
Bah, c'est
trouve.
Ça en fait, c'est-à-dire que pour moi c'est un peu un piccolo saxo pour les plus jeunes. En
oui.
Fait. Il y a
oui,
ce
oui.
Côté découverte aussi des instruments qui est présent par une histoire. Mais comme comment Pierre et Leloup aussi. Hein.
Enfin, oui, tout à fait.
Cette tradition d'album comme ça, sonore, mais vraiment adaptée aux plus petits.
Complètement, oui.
Et c'est vraiment très beau, je suis d'accord avec vous. On continue avec une petite sélection d'albums. Et vous vouliez nous parler d'un album très drôle qui s'appelle « Ne me mange pas, s'il te plaît ».
Ah oui, alors là, c'est extraordinaire. C'est Lise Climo. Et on est chez Milan. Alors, ça doit être une traduction, hein, je crois.
Ouais. Alors, Lise Climo, c'est une Américaine extrêmement connue aux États-Unis. Elle a vraiment un univers. Elle a plein de fans, une fanbase qui la suit sur les réseaux, notamment. Elle a créé
une fanbase.
Oui, tout à fait.
Okay.
Enfin, une base de fans. Voilà.
Oui.
Voilà. Elle a créé notamment les aventures d'un petit dinosaure, Henri le dinosaure, qui est très connu
oui,
là-bas.
J'ai vu, ouais.
Et effectivement, c'est une série qui fonctionne très, très bien.
Et donc là, il s'agit d'un petit lapin qui sort de son terrier après avoir fait une balade sous la terre. Là. Et évidemment, il rencontre derrière un arbre. Alors, je vais juste remarquer en l'ouvrant, mais il rencontre un gros ours. Sauf que le gros ours, là, vous voyez, Monsieur Simon, il est derrière le sapin. Ce qui est très drôle, c'est qu'on ne voit pas le reste du corps.
Il est bien caché.
Ah, il est sacrément bien caché. Il se fond dans le décor. Et là, la seule expression du petit lapin quand il voit le gros ours, c'est « Oula, zut !» Ça va mal se passer. Et alors, le lapin, pris de court, lui dit « Ne me mange pas, s'il te plaît. » Et l'ours lui répond « Mais j'ai trop faim. Attends, si je t'offrais une pizza ?» Donc, le lapin réussit avec Uber Eats, ou un truc comme ça, à se faire livrer une pizza. Et ils partagent la pizza, tous les deux. Le lapin dit, tu peux me laisser le dernier morceau ? Bah non, dit l'ours, sauf si tu veux que je te mange. Bon, après cette bonne pizza, tu n'as plus faim, n'est-ce pas ? Je ne sais pas. Un vrai repas se termine par un dessert. Donc, les voilà en train de siroter tous les deux la même glace, avec une paille chacun dans la glace. Vous avez compris que le lapin va développer plusieurs stratagèmes, on va dire nutritifs, pour que l'ours ne le mange pas. Il va négocier en permanence avec lui et au bout d'un moment, il se fatigue parce qu'il sent que l'ours veut quand même le manger. Il se fatigue et il dit « bon, j'abandonne, je capitule ». Il va chercher de la salade et il s'allonge sur la salade et il lui dit « vas-y, fais-toi plaisir, moi j'en peux plus, la tension est trop forte et tout ». Et là, l'ours... Bon, il est prêt à y aller, mais il se dit « mais je vais perdre un bon copain, c'est embêtant ». Et donc finalement, il va épargner le lapin. C'est irrésistible, c'est drôle, c'est comme une BD, il y a des bulles, un dessin très léger et en même temps qui pèse son poids, on va dire, au niveau des personnages. Et des petits traits d'humour en permanence. J'aime beaucoup quand l'ours, il faut montrer qu'il est devant ses potes pour frimer, enfin c'est même pas pour frimer, pour montrer qu'il est un ours. Il a pris le lapin entre ses dents quand même. Le lapin est couvert de la bave de l'ours quand même, mais finalement il ne le mange toujours pas. Et,
une espèce de connivence qui s'est créée comme
oui, voilà, une grande amitié. Et c'est très très fort. Juste aller voir le lapin dans son bol de salade, s'offrir à l'ours, c'est presque voilà, c'est presque torride hein, quelque part.
Tel un rouleau de printemps. Voilà. Il s'offre comme ça.
Voilà, c'est délicieux.
Et ben vous envolez un autre livre délicieux, j'en ai un aussi, qui est pareil, qui est d'une la mignonitude, je sais pas si ça existe, je crois que Philippe Catherine a utilisé ce mot, la mignonitude.
Oui, il a même fait une expo.
C'est ça. Et ben là, on y est à plein avec cet album qui s'appelle Chevalier Chouette. C'est un livre illustré et écrit par Christopher Denise, un auteur américain, publié chez Kaleidoscope. Et là, on est pareil, on est vraiment dans une histoire, mais tellement choupinoute. On va suivre Chouette. Chouette, c'est une petite chouette qui est toute petite, qui est toute mignonne, voilà. Et Chouette, elle a un rêve. Elle veut devenir chevalier.
Dis bon, donc.
Mais oui, parce que les chevaliers, ils sont courageux, ils sont astucieux et ils ont plein d'amis. Et elle veut être courageuse, astucieuse et avoir plein d'amis. Mmh. Et puis, c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas faire de grandes choses. Donc, du coup, elle est persuadée qu'elle va aller au bout de ses rêves. Et ça tombe bien, puisque justement, dans le château où, à côté duquel elle habite, il y a une mystérieuse disparition de chevaliers. Tous ceux qui sont de garde de nuit disparaissent les uns après les autres. On se demande bien ce qui va se passer. Et donc, ben... Chouette va passer tous les concours pour être chevalier.
Elle va être des concours.
Ah oui. Non, mais c'est très, très... Ah non, mais on rigole pas. Oh. Il faut être fort, il faut être courageux, il faut être astucieux et tout ça.
Et avoir... Non, enfin, les amis, c'est après.
Et donc, il y arrive. Et puis, il va prendre son premier poste, que celui, justement, du garde de nuit. Puisque, ils disparaissent tous. En tant que chouette, ça se passe plutôt bien.
Ah bah oui.
Il reste éveillé, tout ça, donc c'est vachement plus facile quand même. Jusqu'au moment où il va découvrir que la disparition de tous ces chevaliers, ça ne vient pas de rien. Il y a un dragon énorme qui vient tous les soirs, voilà, qui bouffe tous les chevaliers, voilà. Bon, je vous laisse découvrir comment ça va se passer. Il est là aussi question de pizza, c'est pour ça que je fais la transition qui m'a fait bien rire. Décidément, on achète tout avec une pizza. C'est extrêmement drôle, extrêmement mignon. Le dessin de Christopher Denise est juste à tomber. Voilà, c'est son premier album qui est traduit en français. Et j'espère vraiment qu'il y en aura d'autres parce que c'est un vrai plaisir. Donc je vous invite vraiment à découvrir ce chevalier chouette. Un très très beau chevalier. On change un petit peu d'ambiance, Véro, avec un album qui s'appelle T'es pas mort.
T'es pas mort. Alors, vous vous souvenez de Anton et les rabat-joies de Ole
Könnecke.
Et avec ce petit garçon Anton qui jouait au mort avec ses amis, à faire le mort. Et ben Joséphine, on est avec trois canards là. Ça s'appelle T'es pas mort. C'est Catherine Pinner qui a fait cet album.
Et plein d'autres.
Et plein d'autres. Mais ce n'est pas la première fois que je m'arrête sur ces albums. Et là, j'avais trop envie. Alors, je vous avoue, c'est ce rose chaleureux qui m'a arrêté quand on parle de la mort. C'est merveilleux. Merveilleux. Pastel. On est chez Pastel. Et Joséphine, donc, décide de jouer à faire le mort, la morte, devant Suzy et Barnabé. Et c'est un jeu, Monsieur Simon, qui n'est pas facile du tout. Parce qu'il faut rester immobile par terre. Et le nez peut gratter. Ça, c'est embêtant. Je ne sais pas si le nez des morts, il gratte, mais alors le nez de Joséphine, il la grattait. Donc, il ne faut pas bouger du tout. Son amie Suzy décide de relever le défi et se couche sur le ventre. Elle trouve cela plutôt agréable et c'est alors qu'elle passe en revue les avantages et les inconvénients à être mort ou morte. Donc, la mort, dans ce livre, c'est le quatrième personnage. Elle est en couleur chaude, rose, bleu, verte et jaune, comme dans des dessins d'enfants. On a l'impression de dessins d'enfants. Enfin, c'est lumineux. La mort est dans un univers lumineux, là, dans ce livre. Et comme dans les vies d'enfants, la mort est un jeu qu'ils expérimentent avec profondeur et légèreté aussi. En même temps, avant de passer à autre chose de beaucoup plus important pour eux, hop, ils sont fatigués de faire les morts. Ils vont aller jouer, là, maintenant, quand même. On ne va pas faire les morts toute la vie, quand même. Hein.
Quand même.
Voilà. C'est vraiment là, elle m'a touchée. Elle m'a touchée en plein cœur. Ces dessins m'ont souvent touchée, ces textes et tout. Mais là, là, c'est trop fort.
Ah, vous êtes sans voix.
C'est trop fort, voilà.
Heureusement, vous aviez écrit vos mots parce que là,
oui,
sinon,
bah oui, ça aurait été sans voix. Je préférais.
Et vous voulez quelque chose qui vous scotche aussi? Moi, je vais vous présenter un très bel album qui s'appelle Duo Mambo. C'est un livre qui a été écrit par Wei Midag et Aurel Arima, qui se sont alliés pour cet album. Et franchement, c'est d'une beauté vraiment admirable. En fait, ça va parler à tous ceux qui aiment la danse, mais aussi tous ceux qui aiment la vie. Au début, on a deux enfants qui sont de part et d'autre de la double page. On voit assez rapidement qu'il s'agit d'un garçon et d'une fille qui se mettent à danser chacun de leur côté. On les voit grandir. Ils ont 2-3 ans, puis 4-5 ans, puis 6-7 ans. Et chacun danse de son côté. Quand tout un jour, tu as croisé mon tempo. Et nous avons créé un duo. À partir de cette double page, en fait, les deux personnages vont danser ensemble. On les voit toujours grandir, on les voit toujours vieillir. Et à chaque fois, dans chaque double page, en fait, c'est une danse différente qui est montrée. On passe Je suis nul en danse, hein, mais du tango.
Il y a du mambo, sûrement.
Il y a du mambo, il y a de la danse contemporaine. Et puis surtout, on les voit vieillir ensemble. Mmh. On voit leur corps changer. On voit leur rapport changer aussi. Et tout ça, mais il y a quelque chose qui les retient tout le temps, c'est qu'ils continuent à danser ensemble. Mmh. Quoi qu'il arrive, même si leur chemin paraît un peu s'éloigner, jusqu'à devenir petit papy, petite mamie, toujours à danser. Et puis un beau jour, la mamie, elle est toute seule. Et elle continue à danser jusqu'à... Elle va traverser une page. Elle va courir. Quand elle court, elle rajeunit. Et quand elle rajeunit, elle revient le jour de la première rencontre avec son amoureux. Et c'est un album sur la vie, comme on en a eu plusieurs, hein, comme ça, qui traversent toute une vie.
Avec la danse.
Mais là, la danse qui est au centre de ça. Alors, Aurèle Arima explique que c'est en voyant les images de Waymi Dag qu'elle a eu envie, en fait, de lui proposer quelque chose, d'y mettre ses mots, puis d'y mettre un peu sa personnalité. En tout cas, voilà, cet album, il est très précieux. Il est vraiment hyper beau. Il s'appelle Duo Mambo de Waymi Dag. Aussi l'occasion de découvrir un dessinateur vraiment talentueux et Aurèle Arima, et s'est publié aux excellentes éditions La Joie de lire, nos amis suisses. Le temps passe, nous avons encore plein de choses à présenter. C'est le temps de faire un petit vrac, Véro en vrac ou le vrac de Véro?
Oui, je suis complètement en vrac, c'est le cas de le dire, il faut que je le retrouve mon vrac. Hein. Ne me mange pas s'il te plaît, je vais y arriver. Là, je l'ai pris à l'envers. Bon, mais c'est pas grave, je vais le prendre comme ça. Allez, Des drôles de choses de François David et Sylvie Serpris. Alors, Sylvie Prix ou Serpris, peu importe, en illustration, moi j'aime beaucoup, je la suis depuis longtemps. François David, toujours cet amoureux des mots qu'il aimait en...
Puis créateur des éditions Motus.
Des éditions Motus, on est chez Motus, dans sa maison d'édition. Et là, ce sont des objets du quotidien qui va mettre en mots et qui sont les objets de son quotidien aussi en tant que créateur, en tant qu'auteur. Et il va parler de la graffeuse, par exemple, dès qu'elle voit des pages qui s'apprécient, se correspondent, ça semble bien. La graffeuse les relie d'un petit coup de métal avec un air complice pour qu'elle reste toujours soudée. La graffeuse, c'est l'amie des amis. Une petite autre, juste pour... Voilà, les draps, j'ai voulu faire le lit, mais les enfants avaient pris les draps et les avaient transformés en fantômes, en robe de mariage et en voile de bateau. Ce soir, on va dormir sur la mer. Un petit livre comme je les aime, avec des petits textes à l'intérieur qui font du bien, comme on prend des petits bonbons. Donc, je vous le conseille fortement. Mars en décembre, de Niels Torres et Jean-Charles Batty. On est aux éditions courtes et longues. Et là, c'est l'histoire de Yuri. Mais j'ai cru comprendre que le premier astronaute s'appelait Yuri. Je ne sais plus son nom, mais il venait de Russie. Et il a été sur la Lune il y a très longtemps. Et là, il est dans sa maison, en retraite, avec son chien. Et il rêve de la Lune. La veille de Noël, il rêve de la Lune. Et en rêve, il va partir dans l'espace avec son chien. Il va repartir sur... Alors, c'est pas la Lune, c'est... il va rêver de Mars. Il va amarcir, je sais pas comment dire. Et il va rencontrer un ami. C'est délicieux. Ce Yuri, il a un peu la tête d'Einstein. Il y a une complicité avec le chien qui est... Et puis des petits clins d'œil à Méliès aussi, je pense. C'est pour ça que je pensais à la Lune. Et une grande complicité avec le chien, une exploration de la Lune. Il y a des... On a l'impression d'avoir connu son histoire aussi. Je pense qu'il y a des bribes vraies dans l'histoire de Yuri. C'est original et c'est très très beau.
C'est la tuerie Gagarine, non ?
Voilà, Gagarine, je cherchais. Je pense, ouais. Un grand livre qui s'appelle Les petits caractères, qui m'a beaucoup séduit. époque où, enfin à cette époque, il y a beaucoup de demandes sur les émotions, hein, beaucoup, beaucoup. Et là, ben voilà, c'est des fruits et légumes qui se mettent. Alors, ils se mettent pas en scène. D'ailleurs, ils sont. C'est comme un catalogue de fruits et légumes. Mais par exemple, enfin, chacun va avoir sa personnalité. Comme le poivron va être très un caractère de feu, par exemple. Voilà, il va y avoir. Ils vont donner des sentiments et des émotions aux légumes et aux fruits qui sont listés comme ça, superbement dessinés et qui s'animent. Et c'est une très belle façon d'aborder les émotions. On est chez Marcel et Joachim, qui sont les, enfin, j'ai l'impression que c'est les rois du catalogue. Je ne sais pas pourquoi ils ont la façon de mettre en scène les choses. On a envie de se les approprier, comme les catalogues de la Redoute.
Très bien.
Je sais pas si
c'est une très belle référence.
Je crois que je suis venue au bout de mon...
Merci, c'était un petit vrac.
C'est un petit vrac,
c'est un petit vrac. Allez, du coup, bah, c'est le temps du coup de cœur. Générique coup de cœur.
Oh yeah.
S'appelle Mon nom à moi, c'est Billy, de Loïc Clément et Clément Lefeuvre. Mon nom à moi, c'est Billy, et on ne peut pas dire que je sois chanceux. J'ai plus de maman parce qu'elle est partie au ciel quand je suis arrivé sur terre. J'ai plus de papa non plus, mais lui, c'est pas pareil. Il est parti un jour chercher de l'or parce qu'on n'avait pas d'argent. Ou alors, c'est le contraire, je sais plus. C'est le vieux Dick Fox qui m'a raconté ça. Il s'occupe de moi maintenant. Mais je me souviens pas, j'étais trop petit quand papa est parti. Même que des fois, ça me fait peur, parce que je me rappelle plus bien le visage de mon papa. Si ça continue, je finirai complètement par l'oublier, et ça, je veux pas. Imaginez que je le reconnaisse pas quand il reviendra me chercher pour m'emmener vivre dans la grande maison de quand il sera riche. Alors des fois, je ferme les yeux et je me concentre. En me rappelant la berceuse qu'il me chantait pour m'endormir, j'arrive parfois à revoir son visage. Bill est un fief et bandit, et il arpente le Texas. Toujours vainqueur, jamais pris, c'est un cow-boy d'une très grande classe. Comme ça, quand il reviendra me chercher, je saurai que c'est lui. S'il se trompe ou qu'il choisit un autre orphelin, je pourrais lui dire qu'il s'est gouré. J'ai pensé à tout, hein, je suis malin, ouais. Moi, je pense que dans la vie, il faut pas compter que sur la chance. Cette année, Mr. et Mrs. Fox m'ont inscrit à l'école. Au début, j'étais pas d'accord pour y aller, mais depuis que j'ai rencontré les copains, c'est plus la même tisane, hein, c'est de la limonade. Entre les heures de classe de Mrs. Gillin, qui on adore jouer dans la cour de récré aux légendes du Far West. Fred, John, le petit Peter et moi, on fait des duels avec nos bâtons pistolets, comme si on avait des comptes à régler. Mais pas les mêmes que ceux d'arithmétique. Hein. Non, nos comptes à nous font les bons amis. Hein. On se tire dessus pour se tuer pour de faux en menaçant l'autre qu'on va lui apprendre à vivre. On rigole bien, hein, même si personne veut jamais perdre le duel. Tu m'as manqué, t'as tiré à côté alors que moi je t'ai eu en plein cœur. Non, parce qu'avant on m'avait opéré du cœur et on me l'avait remis de l'autre côté, donc ça compte pas. Des fois on entend rire quelqu'un qui nous regarde. C'est Jane. Elle joue pas avec nous parce qu'elle veut pas qu'on la sauve. Elle veut être une desperado et elle serait notre leader. Mais les copains sont pas intéressés, hein, ils aiment seulement jouer aux gentils. Hein. En plus, ils veulent pas qu'une fille soit leur chef. Un jour, Fred lui a dit « Une fille, ça peut pas commander, sauf un chocolat chaud au salon de thé. » J'ai trouvé ça stupide, hein, car il suffit de voir Mrs. Gillen quand on n'a pas fait nos devoirs ou quand le directeur, son mari, fait du charme à la cantinière. C'est elle la bosse, hein, y a aucun doute là-dessus. La seule ombre au tableau à l'école, finalement, c'est le grand Loveless. Je sais pas combien de fois il a redoublé, mais sûrement plus de 1000. Il est trop vieux pour être encore élève dans notre classe. Il est trop grand, trop fort, trop bête, trop tout. Son truc à lui, c'est venir se servir sur nous alors qu'on n'a pas grand-chose. Il nous pique notre goûter ou nos affaires et on ne peut rien y faire. Un soir, Mr. Fox m'a emmené à une veillée avec sa vieille bande de cow-boys. J'adore ces moments-là, quand on fait un feu sous les étoiles et qu'on se raconte des histoires de l'Ouest sauvage. La nuit est parfois si claire qu'on dirait que l'encre du ciel est devenue du lait. Le vieux Dick nous a expliqué comment mon grand-père shérif a réussi à neutraliser Long Bean Beater. Ce très grand, très fort et très bête desperado qui terrorisait la ville m'a rappelé quelqu'un. Je suis fier de savoir que le papa de mon papa était un si grand héros. J'ai envie d'être à la hauteur, hein, mais je suis tellement petit. C'est ce que j'ai expliqué le lendemain à Dick, pendant que Mrs. Fox nous servait une tarte à la cerise. Il s'est levé et a fouillé dans un tiroir pour en sortir une étoile de shérif enveloppée dans un mouchoir. Ton père l'a laissée pour toi. C'était celle de ton grand-père. Dick a eu l'air perdu dans ses pensées en la regardant, comme si la revoir lui rappelait plein d'aventures. Il m'a expliqué qu'un tout petit quelque chose comme cette pièce de métal pouvait être un grand symbole aux yeux des autres. Manière de dire que même un gringalet comme moi peut être un héros pour ceux qui l'entourent. J'ai mis l'étoile de mon grand-père sur ma chemise et j'ai filé à l'école avec une ferme résolution. Loveless, tiens-toi à carreau dans ta chemise à rayures. Il y a un nouveau shérif en ville. Le lendemain, il y a eu du grabuge à l'école. À la récré, le grand Loveless s'en est pris au petit Peter. L'immense cornichon a décrété qu'on devait lui filer du blé pour avoir le droit de faire pipi. Comme Peter avait la vessie pleine et les poches vides, ça a posé problème quand il a insisté pour aller aux toilettes. Loveless a mis une grosse patate à mon copain qui n'avait pas un radis. Il a aussi collé un marron à Fred et à John pour qu'ils se mêlent de leurs oignons. Alors à ce moment-là, j'ai regardé mon étoile et ça m'a donné du courage. J'ai dit à Loveless que son règne de terreur de voyous aux trous de fesses moisies prenait fin. Je l'ai prévenu qu'un nouveau shérif venait d'arriver en ville et que... PAM ! Loveless m'a filé une châtaigne en pleine poire avant que je puisse terminer ma phrase. Et tandis que j'étais à moitié dans les pommes, couché au sol, il s'est penché vers moi, a regardé l'étoile de mon papy et m'a dit « T'as raison, Billy, il y a un nouveau shérif, il va falloir lui montrer un peu de respect. » Alors il a arraché mon étoile et l'a accrochée à son gilet. « À partir de maintenant, les nains, si vous voulez pas me courir sur le haricot, faudra m'appeler shérif. Shérif Loveless !» J'ai eu beau protester, c'était fichu. Enterré, mouru. Au Far West, c'est la loi du plus fort qui compte. Adieu mon étoile de justice, adieu le souvenir de papy, symbole du bien et du bon, les carottes sont cuites. À force de voir le grand Tartignol se prendre pour le super shérif de la cour de récré, j'ai fini par avoir des idées bizarres. Je me dis que si ce voyou représente la loi, j'aime autant être du côté des bandits, alors oui, je suis pas totalement zinzin, je sais bien que Loveless n'est pas un vrai cow-boy et qu'il ne représente pas du tout la justice. Je sais bien que c'est lui le vrai voleur et qu'il mériterait la prison, les travaux forcés, où l'on l'obligerait à casser des cailloux avec son nez. Mais je dis juste que maintenant qu'il a mon symbole sur la poitrine, il enlaidit, ce qui était beau à mes yeux. Si on doit vivre dans un monde où Loveless est le shérif, alors à partir de maintenant, moi, je vais être le desperado. Je réfléchis beaucoup à la façon dont je vais m'y prendre pour me venger. Hors de question que ce coyote aux dents pourries s'en sorte si facilement. J'ai bien pensé à aller dire à notre maîtresse, Mrs. Jane, que ce que Loveless nous avait fait subir, mais les copains veulent pas. Ils disent qu'on n'est pas des balances. Moi, la seule balance que je connais, c'est celle pour peser les bonbons chez Mr. Smith, hein, l'épicier, le papa de Jane. Alors, je vois pas le rapport. Je sais que je peux pas gagner la bagarre, parce que Loveless a trop de paires de baffes et moi que j'ai deux joues pour les recevoir. Je fais pas le poids, et ça, j'ai pas besoin d'une balance pour le savoir. Non, il faut que je réfléchisse à comment font les bandits pour s'en sortir. Ils sont parfois lâches et menteurs, hein, mais les plus fameux sont souvent rusés. C'est le vieux Dick qui m'a dit ça. Il paraît même que certains, dont la tête est mise à prix, sont des chefs de bande. Ils sont pas forcément les plus forts, hein, mais ils sont les plus intelligents. Alors je fais marcher mon cerveau et je pense en boucle. Coyote aux dents pourries, bandit, balance, bonbon de l'épicerie. Non, non, je fais à l'eau galop. À force que les idées me trottent dans le ciboulot, j'ai trouvé un plan. Loveless, mon vieux, je vais te faire passer le goût du vol, moi. Juste avant l'école, Fred, John, le petit Peter et moi, on décide de voler des tonnes de bonbons chez Mr. Smith. Jen est maintenant notre complice. Elle est dans le coup jusqu'au cou. Comme convenu, elle détourne l'attention de son père en hurlant derrière la boutique. « Papa, j'ai vu un rat, un gros rat !» Et hop, pendant que le vieux Smith cherche un animal imaginaire, on remplit nos poches de sucreries bien réelles et on prend la fuite. Une fois la première partie de mon plan réalisée, la deuxième est la plus simple. Tout repose sur la stupidité de mon adversaire. Alors autant dire que ça peut pas rater. Les copains et moi, on se balade dans la cour de récré avec les bonbons qui dépassent de nos poches de pantalon. Des sucres d'orge, des sucettes, des bâtons de réglisse, tous les trésors de l'épicier. Naturellement, le shérif les remarque. Hé les nains, je crois que vous avez oublié de piller le chef de la zone, celui qui assure votre sécurité. « On n'oublie rien, je lui dis en regardant mon étoile accrochée à son gilet. On se souvient même de tout, shérif. On lui donne alors ce qu'on possède, histoire de bien le remplir partout. Dans les poches, dans le pantalon, dans le gilet. On a mis tout le fruit bien sucré de notre larcin. Alors j'annonce à Loveless que je peux lui prédire l'avenir. Il me regarde avec deux yeux ronds comme des tartes, celle qui nous a pas encore collé ce jour-là. Je répète plus fort. « Loveless !» Je peux deviner le futur et je sais ce qui va t'arriver. C'est là que tous les enfants un peu curieux nous ont entourés pour assister à la suite de ce face-à-face. Sans que j'aie besoin de lever le petit doigt, ton oreille va chauffer et tes larmes vont couler. De quoi ? Répète-moi ça, sale. Aïe, 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 aïe ! Avant que le shérif ait le temps de finir de me menacer, le directeur le décolle du sol en le tirant par l'oreille. Le papa de Jen est venu se plaindre à l'école d'un vol de bonbons dans son magasin et le coupable ne fait aucun doute. La petite terreur des récrés avec des bonbons pleins les poches, jamais enquête n'a été plus rondement menée. Et tandis que Loveless pleure à chaudes larmes en jurant qu'il est innocent, les enfants rient de bon cœur. En fouillant dans son sac, Mr. Dillon retrouve des tas d'objets que la grande saucisse nous a volés. Je récupère même mon étoile. Voilà, vous savez tout maintenant. Retenez bien qu'un bon ciboulot vaut souvent mieux que des gros biscottos. J'ai pensé à tout, je suis un malin, ouais. Je vous l'ai déjà dit, hein, moi je pense que dans la vie, il faut pas compter que sur la chance. Je sais pas bien si je veux être un grand shérif, comme papy, ou un fameux bandit, comme le dit la chanson de mon papa. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai beau être un kid, je pense qu'au Far West, on va vite entendre parler de Billy. C'était donc Billy, un livre de Loïc Clément et Clément Lefebvre. Loïc Clément va nous en parler longuement tout à l'heure, donc patientez un petit peu. On écoute Bretelles et Garance, Ne rien faire du tout. Quel beau programme.
Planter des patates, faire des ronds dans l'eau, compter jusqu'à 4, partir à vélo. Prendre le temps, prendre le temps. De longues caresses, des œufs sur le plat, regarder tes fesses. Je pourrais faire ça pendant longtemps, pendant longtemps. Se perdre en chemin, se chercher des poux, croquer du raisin. Ne rien faire du tout, ne rien faire du tout, ne rien faire du tout, ne rien faire du tout.
Rester sous la couette, danser sous la pluie, chanter à tue-tête, ça fait pas un pli. Et c'est si bon, oui c'est si bon. Plonger dans les airs, caresser les arbres, nager en pleine mer et rendre les armes. Ne rien attendre, ne rien attendre. Se perdre en chemin, se chercher des poux, croquer du raisin. Ne rien faire du tout, ne rien faire du tout, ne rien faire du tout, ne rien faire du tout. Chercher des poux, croquer du raisin. Ne rien faire du tout, 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 ne rien faire du tout.
Quel beau programme, Ne rien faire du tout, de Bretelles et Garance. C'était le deuxième morceau extrait de leur album qui vient de sortir. Eh bien, nous, on va retourner dans le Far West avec Loïc Clément. Et je l'ai rencontré à la librairie. Il était venu faire une dédicace. Et on a justement parlé de ce « Mon nom à moi, c'est Billy ». On l'écoute tout de suite.
Et nous sommes super contents à Only Quanou de recevoir un auteur qu'on aime vraiment beaucoup. C'est Loïc Clément. Bonjour Loïc.
Bonjour Simon.
Loïc, je suis vraiment ravi que tu sois de passage à Laval pour cette petite interview pour Only Quanou. Et j'avais envie de parler un peu avec toi de Billy, de la nouvelle série qui se lance chez Little Urban. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus? Parce que là, il y a le premier tome qui est sorti en fin d'année dernière. Et j'ai cru comprendre que ça allait prendre une petite dimension quand même.
Bah oui, Billy, c'est ma vie de courgette à moi. C'est vraiment un récit qui est raconté par un enfant avec tout ce que ça comporte de tics de langage ou de niveau de langage d'un enfant à l'oral. D'ailleurs, on me fait beaucoup de remarques sur l'écrit qui est très parlé comme ça, mais moi je l'assume complètement.
Et oui, c'est vraiment dans du dialogue en fait.
Oui, c'est ça, ouais. C'est vraiment comme un phrasé d'un gamin qui raconterait, et c'est tout à fait voulu. Donc, non, parce que j'ai eu plein de critiques sur la façon de parler du personnage. Enfin, comment dire, que dans les livres, on ne devrait pas écrire comme ça. Mais moi, je l'assume vraiment, quoi. Quand j'ai Paris, il fait ça, je suis lecteur de ça, quoi.
Ouais, et puis quand on le lit à voix haute,
Ça marche.
Bah oui, parce que en plus, ça, on l'a pas dit, mais ça se situe quand même dans un univers très particulier, qui est celui de la conquête de l'Ouest, enfin de en ouais, tout cas du Far West. Et ce personnage-là, il a besoin d'avoir une langue.
C'est
à lui.
Ça. Et en fait, du coup, c'est un peu une relecture de Billy the Kid. Je me suis posé juste la question de savoir, tiens, est-ce que avant d'être un méchant desperado, il n'avait pas eu une enfance, Billy, et je raconte une enfance complètement fantasmée de Billy the Kid avec ça. Et puis du coup, ça a dérivé sur... À la base, c'est un podcast, hein, et puis ça a dérivé sur... Tiens, mais est-ce que Calamity Jane, elle n'aurait pas eu une enfance, et puis ça pourrait être sa copine, et puis voilà, tout ça, ça a permis de traiter des thèmes qui me tiennent à cœur. Alors c'est vrai, il y a la... Il a perdu sa mère, son père n'est pas là. Ça permet de parler de... C'est un orphelin, quoi, donc ça permet de parler de tout ça. Ça permet de parler des premiers copains aussi... Il y a la place des femmes aussi, parce qu'en prenant le Far West, dans le tome 2, beaucoup ce sera exploré. Il y a quand même cette idée que les femmes étaient quand même soit des reproductrices, soit des institutrices, et puis c'était à peu près tout, quoi. Et on parle un petit peu
pas
de ça.
Pas que dans le Far West, hein. Ça a duré un peu plus longtemps, malheureusement.
Bah, je me sers du Far West, évidemment, pour parler de notre, plus de notre société qu'autre chose, quoi. Mais... Non, c'est... Et puis le troisième tome, c'est le racisme qui est abordé.
Ça sera quel personnage, du coup, le troisième tome?
Et il s'appelle Tekoa, c'est un métis indien... américain, enfin, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire d'ailleurs américain, puisqu'ils sont tous issus de l'Europe, mais il y a un mélange de caucasien indien, et ça permettra de parler du racisme, parce que c'est un petit élève qui va arriver dans l'école et qui va être pas mal pointé du doigt, parce qu'à moitié peau rouge, quoi.
Là, il est encore pas apparu dans le...
Eh bien, dans le tome 2, on le voit, en fait.
D'accord.
Alors, c'est ce qui permet de... C'est ça, le truc qui est génial quand on fait de l'album, contrairement au podcast, je pouvais pas le citer, il n'est pas cité dans le tome 1 et dans le tome 2 dans le podcast. Par contre, sous forme d'album illustré, on l'a déjà introduit dans le tome 2, quand le tome 2 va sortir, pour ceux qui auront l'œil, Tekoa est déjà introduit, il est dans les images.
D'accord.
Voilà. Comme ça, quand on le découvrira dans le tome 3, pour les lecteurs observateurs, on se dira, tiens, mais j'ai déjà vu ce gamin dans le tome 2.
J'ai déjà vu quelque part, quoi. Ouais. Mais il y a aussi, dans cette série, c'est marrant, parce que dans ton œuvre, il y a vraiment beaucoup de rappels de ce que tu as fait toujours précédemment. Là, on parlait de Billy the Kid, l'enfance de Billy the Kid, avec la jeunesse de Dracula, il y a des thèmes qui reviennent aussi sur le harcèlement, là il y a l'espèce de grosse brutasse là, qui est toujours là, enfin, c'est vraiment intéressant parce que tu changes les périodes, tu changes les personnages, mais il y a quand même des thématiques qui restent quand même toujours présentes, quoi.
Ah oui, bien sûr, moi je continue à tisser, tu sais, c'est un vêtement fait rapiécé de plein de petits bouts que je suis en train de me tisser depuis des années, mais évidemment ça reste le même vêtement, donc c'est normal qu'on trouve des correspondances. Moi, si j'écris sur le harcèlement, c'est parce que ça continue à 41 balais de me questionner, en fait, que ce soit via mes enfants ou via mes souvenirs. Donc, je crois que j'avais pas fait le tour avec Chaque jour Dracula, et c'est une autre façon de l'aborder. Parce que là, par exemple, Billy, contrairement à Dracula, il est pas seul. Il a des potes, pourtant. Donc, c'est plus. C'est pas vraiment du harcèlement sur un gamin en particulier, c'est plutôt une bande qui est victime d'un gros dur. Donc, c'est notre angle de vue.
Oui, là, il y a plutôt l'agresseur qui est tout seul, en fait.
Ouais, c'est plutôt l'inverse.
Mais qui est balèze, quand même.
Et qui est balèze et qui est bête comme ses pieds. Mais non, le truc que j'ai voulu faire surtout dans le tome 1, plus que le harcèlement, c'était s'interroger sur la notion de justice, quoi. Donc du coup, il y a même eu des très mauvaises critiques du livre à ce sujet, parce que il est pas forcément très moral, mon livre.
Non, justement j'allais te poser la question sur justement c'est pas la fin, t'as toute fin d'ailleurs, parce qu'il y a, mais c'est ce qui amène le dénouement de l'histoire. C'était vraiment volontaire il y a une certaine forme de vengeance un peu jubilatoire.
Ouais, totalement, qui est totalement assumé. Et c'est vrai que c'est un livre qui a beaucoup fait parler Billy pour ça. C'est-à-dire, j'ai vu des critiques de mères indignées en disant, mais on peut pas mettre ça dans un livre pour enfants. Et moi, j'avoue que ça m'a bien plu, en fait. Parce que de toute façon, ma littérature jeunesse à moi, elle est un peu grise. Mon truc à moi, c'est Ungerer, c'est Syndax, c'est ça mon école à moi, en fait. Et j'aime pas bien, en fait. Qui est que des gentils d'un côté. Okay. Et moi, j'aime bien que mon héros, il ait une part d'ombre, et j'aime bien surtout que mon héros, il soit réaliste. C'est-à-dire que quand on est gamin, ça nous arrive de nous venger, en fait. Quand on est gamin, ça nous arrive de, même quand on est plutôt un mec sympa, d'avoir des comportements qui sont moins sympas. Et là, par exemple, s'interroger sur la notion de justice, c'est-à-dire que quand le héros se fait voler son étoile de shérif, qui représente la justice, et que c'est le plus grand des harceleurs qui la porte, cette étoile, et qu'il proclame qu'il est le nouveau shérif en ville, ça dévoie totalement l'idée même de justice, et le héros se dit, ok, si c'est lui le représentant de la justice, je préfère être un desperado, et il se comporte à ce moment-là comme un desperado, mais pour faire le bien, c'est-à-dire faire les choses pas terribles, pour faire des choses bien derrière.
C'est le Robin des Bois.
Ouais, je trouve que c'est des questions qui sont intéressantes, parce que dans les cours de récré, on est là-dedans, quoi. On n'est pas que dans le...
Et puis j'ai envie de dire, face aux critiques aussi qui peuvent être données, l'adulte est toujours le médiateur du lecteur de... il lit l'album. C'est pas comme si on laissait l'enfant tout seul avec cet album sans rien. Donc l'adulte doit faire aussi son rôle d'interroger l'enfant sur ce qu'il a pensé, sur ce qu'il a.
Mais bien sûr, en fait, l'histoire, quoi. Moi, ce que je trouve hyper intéressant dans les lectures, par exemple mes lectures à mes enfants, c'est d'en discuter après. J'adore ça, en fait. J'aime beaucoup interroger mes enfants sur. D'ailleurs, c'est même eux souvent qui sont à l'origine de la discussion. Sur ce qu'ils ont pensé, et puis on revient un peu là-dessus. Et je trouve que Billy, c'est typiquement un livre qui n'est pas inodore, incolore, mais qui va peut-être demander derrière de discuter de tout ça, quoi, de débriefer peut-être un peu le truc. Mais en vrai aussi, il y a un truc qu'on se dit pas souvent, mais les enfants, ils sont pas idiots, quoi.
Alors,
et ça va, ils vont pas devenir voyous parce qu'ils ont vu qu'un personnage a des comportements très humains, quoi. Et je pense que derrière, ça va pas les transformer en voyous.
Non, c'est sûr. Puis ça les fera grandir et on discutera ensemble, mais du coup, ils grandiront avec ça. On rappelle quand même ton compagnon de route sur cette nouvelle série, quand même, le travail de Clément Lefebvre, qui est absolument remarquable.
Bien sûr. En fait, Clément, c'est un ami très proche et on avait un peu le deuil de ne pas travailler ensemble dernièrement parce que quand on fait de la BD, c'est très très long et il n'avait pas le planning pour travailler avec moi sur de la bande dessinée. Donc c'était vraiment super parce que un album jeunesse, ça se casse plus facilement dans un planning. Et en fait, ce qui nous a beaucoup amusé, c'est que Clément, on l'associe beaucoup, un côté un petit peu conte, un petit peu, enfin.
Oui, pour les adaptations qu'il a fait.
Ouais. Et l'amener au niveau du western, c'était un peu un contre-pied parce que personne l'attendait là. Et je crois que lui s'est fait plaisir là-dessus.
Ça lui va bien.
Ouais.
Ça,
et
ça,
alors
ça
le
se voit qu'il a pris plaisir. En fait.
Exactement. Et le tome 2, je crois qu'il s'est même complètement lâché. En fait, ça y est, comme si sur le tome 1, il était encore un petit peu en train de s'autoriser à partir au Far West. Et là, le tome 2, moi, chaque fois que je reçois des images, elles sont incroyable. Le tome 2, c'est Mon nom à moi, c'est Jane, donc c'est vraiment le personnage féminin qui est mis à l'honneur dans le tome 2, et il y a vraiment un boulot, tu vois, l'étape encore au-dessus sur ce tome 2, et j'ai l'impression qu'on va s'éclater de plus en plus sur cette série, quoi. Donc super. C'est chouette.
On sait à peu près combien il y aura de tomes ou...
Bah moi j'en ai écrit 3 pour le moment.
À voir après.
Clément a fait une proposition de thématique pour un tome 4 que j'ai trouvé très intelligente. Je me suis dit, ah ouais, ça pourrait être un truc à explorer. Mais pour le moment, en tout cas, de sur
liberté, en fait. Bon, bah, génial.
Voilà.
Donc, on rappelle que c'est publié chez Little Urban. Au scénario, c'est donc évidemment Loïc Clément qu'on remercie pour ce petit entretien. Et puis, au dessin, Clément Lefebvre. Le premier tome s'appelle Mon nom à moi, c'est Billy. Et puis, on attend Jane avec impatience. Merci, Loïc.
Merci.
Voilà, une belle interview de Loïc Clément qu'on remercie encore ici et découvrez effectivement cet album et cette série publiée chez Little Urban. Le temps passe, le temps file. Il nous reste que quelques minutes, Véronique, pour parler un petit peu de roman. Vous aviez deux coups de cœur notamment à nous présenter, un Puccio pour les plus jeunes.
Un boomerang, collection boomerang au Rouergue, donc le principe
deux histoires qui se lisent,
deux histoires qui se relient quelque part. Et là, c'est Célina, deux voix, deux filles, une fille humaine, une fille chatte, des filles de Bastette, la déesse. Deux amies, le jour et la nuit, grâce à des sortilèges, deux vies intenses, sans barrière, entre le monde animal et le monde des humains. La marraine de Célina lui offre Félina, petite chatte d'ébène, pour calmer la jalousie qu'elle ressent à la naissance de son petit frère. Célina, responsable de ce chaton, s'investit à fond dans son rôle de mère nourricière et plus encore. Puis la marraine revient avec un collier surprenant pour Célina, qui va lui permettre de vivre encore plus près de Félina et vice-versa. C'est une collection, un boomerang. Alors là, j'ai oublié de préciser que c'est Élise Fontenaille, parce que c'est ça qui m'a arrêté en premier, qui a écrit ce petit roman.
C'est une de ses premières incursions pour les un petit peu plus jeunes.
Oui,
c'est beaucoup pour ses romans ados.
Ouais. Et c'est remarquablement écrit. Belle ode aussi au monde féminin, aussi, je dirais, au monde pluriel féminin. Une collection, donc, boomerang, qui transforme les auteurs en acrobates de l'écriture pour les faire retomber sur leurs pieds juste au milieu du livre. C'est des petits romans qui font la part belle à toutes sortes d'aventures, même fantastiques. Des allers-retours dans la vraie vie et dans les rêves. Voilà. Et Sudi, ça fait un moment, parce que c'est un petit pavé, que je voulais vous en parler, de Sarah Flanagan. C'est un livre qui est sorti dans les années 80. Sarah Flanagan n'est plus de ce monde, mais les éditions 2 ont décidé de le rééditer, de rééditer ce livre, qui a eu un certain succès en sortant. Et comment, dans une communauté de petits blancs, très pauvres, le racisme devient le dernier pouvoir des gens. Comment se sentir supérieur en diabolisant des êtres humains juste à cause de la couleur de leur peau? C'est ce qui se passe à Lilo, en Géorgie, aux US, dans les années 40. Une ville une petite ville renfermée sur elle-même, gangrénée par des adultes malveillants et parfois pédophiles, des religieux fanatiques, avec aux différentes entrées de cette ville le panneau « Nègre, sache que tu n'es pas le bienvenu sous le soleil de l'îlot ». Cette maxime a été inventée par les ancêtres de Marie-Agnès qui ont construit la ville. Marie-Agnès, c'est la narratrice et Sudi, c'est son amie. Sudi vit dans une famille encore plus pauvre que celle de Marie-Agnès. Elle est livrée à elle-même et noue des relations fusionnelles avec la nature qui l'entoure, dans laquelle elle crapahute toute la journée, laissant tomber le petit frère qu'elle doit surveiller. Voilà. Et un jour, Marie-Agnès voit son amie disparaître, qui voit son amie disparaître régulièrement dans les kudzu, ça s'appelle, c'est une végétation de lianes, tout ça, autour, la suit. Et découvre son secret. Et son secret, c'est que Sudi est ami avec un noir qui s'appelle Simpson, un adulte, et avec lequel elle a des conversations extraordinaires, d'une grande profondeur. Elle répare des animaux aussi, enfin, en général, elle les soigne, elle cultive, elle cuisine, ils cuisinent ensemble. C'est d'une force incroyable. Marie-Agnès est horrifiée au départ, puisqu'elle pactise avec le diable, hein, ni plus ni moins. Et on va voir les réticences de Marie-Agnès tomber, l'aide aussi de l'institutrice, hein, qui va venir au secours un peu de ces deux petites filles qui sont vraiment perdues dans un monde de brutes. C'est de la trempe de ne tirer pas sur l'oiseau moqueur, c'est d'une force incroyable. Et c'est intemporel et universel, comme je le dis souvent dans des bons livres, mais hélas, c'est encore d'actualité. Voilà.
Donc vous rappelez le titre et l'auteur.
Sudi, S-U-D-I-E, et Sarah Flanagan.
Aux éditions 2.
J'avais présenté Missier la dernière fois, on est sur des textes très très forts.
Nos amis québécois. Eh bien voilà, le temps s'achève, il nous reste juste quelques secondes pour parler d'une bande dessinée. Alors, j'ai fait dans la continuité, hein, comme on avait la chance d'avoir Loïc Clément parmi nous, eh bien j'ai choisi la dernière BD de Loïc Clément, cette fois accompagnée d'Anne Montel. C'est la suite de Mich Charretti, qui est arrivée chez Rue de Sèvres. Mich Charretti, vous le connaissez sans doute en roman, c'est un des plus grands romans de la littérature française. C'est Marie-Aude Muraille qui l'a écrit il y a maintenant peut-être une vingtaine d'années.
Oh oui.
Peut-être, je ne sais plus, on ne compte pas. Et c'est un texte qui reste toujours très très important. Et Loïc Clément et Anne Montel ont décidé tous les deux de l'adapter en bande dessinée.
C'est magnifique.
Le premier tome était absolument somptueux. Eh bien, je vous rassure, le deuxième l'est aussi. On a tant de plaisir à retrouver les aquarelles d'Anne Montel, se mettre au service du texte de Marion Muraille. Le tout vraiment enjolivé par Loïc Clément, qui scénarise ça à merveille. Dans ce deuxième tome, Mich Charretti a grandi, elle a maintenant 15 ans, donc c'est un album qui va être un petit peu moins insouciant. Voilà, il y a beaucoup de choses imposées par la famille qu'on va suivre.
C'est l'époque.
Voilà, c'est l'époque. Hein. C'est vrai que l'époque n'était pas si sympa que ça.
Non.
Et comme ça, on va continuer à suivre cette Mich Charretti. Je vous laisse découvrir l'histoire de cet album, puisqu'on n'a plus trop de temps, mais vraiment, je vous invite, si vous ne l'avez pas lu, à lire évidemment le premier tome et puis à poursuivre avec ce deuxième volume. Il y en aura au moins un troisième. En tout cas, c'est toujours un grand, grand plaisir de retrouver Loïc Clément et Anne Montel avec la plume de Marie-Aude Muraille aussi en dessous. Donc c'est très, très bien. Et c'est publié chez Rue de Sèvres. Voilà, on a dépassé le temps, mais on était vraiment très, très heureux de vous avoir encore avec nous. Écoutez les podcasts. Hein, la plupart des émissions sont à réécouter si vous voulez écouter nos émissions plutôt anciennes. Merci beaucoup, Véro.
Merci, Monsieur Simon.
Tous ces beaux coups de cœur. Merci, Philippe, comme d'habitude, pour la régie générale et le son parfait que tu nous donnes. On se quitte comme d'habitude en musique avec Bretelles et Garance. C'est le troisième extrait. Ça s'appelle La Java bipolaire. Et oui, parce qu'elle peut être bipolaire, la Java. Voilà. On vous souhaite de très, très belles lectures et on se dit au mois prochain.
La vie est belle, je vous aime. Le soleil dans ma bohème. Les oiseaux chantent dans le matin, quelle merveille d'être moi-même. J'ai du charme et du talent, et en plus j'ai la peau douce. Et mon humour est excellent, ma joie de vivre éclabousse. L'engrenage du bonheur, est grippé, je tourne en rond. Sous antidépresseur, aussi vif qu'un cornichon. Au concours de nullité, je sens que je peux gagner. Je suis bête, détestable, aussi moche que pitoyable.
C'est la Java des bipolaires, la vie est rousse au roi. Mais la vie est grise sur l'envers, c'est la bipolaire des Java.
Je me sens quelqu'un d'unique,
voilà.
Une femme extraordinaire, une chanteuse érotique avec du vocabulaire.
Bah, ça me fait plaisir.
Lara Tira Bougridi.
Oh, mais...
Tais-toi donc, t'es qu'une idiote. Regarde-la, Mélodie. En plus, t'écris comme une crotte.
T'es fatigante.
C'est la Java des bipolaires. La vie est rose sur l'endroit, mais la vie est grise sur l'envers. C'est la bipolaire des Java.
C'est pour vous le gris.
Cette journée qui commence est un rayon de soleil.
Ah oui.
Ma déprime,
oh.
Mer immense, vogue entre vie et sommeil.
Oh.
Notre passage sur la terre est une belle aventure. Je suis vide, je manque d'air. Oui, j'ai l'air d'une épluchure. Et alors ?
C'est la Java des bipolaires. La vie est rose sur l'endroit.
Oui, c'est joli le rose.
Mais la vie est grise sur l'envers. C'est la bipolaire des Java.
Qu'il fait bon vivre avec moi. Je suis négative à souhait.
Je trouve aussi.
Je me plains et déçois. On est bien ici, c'est gay.
Bah, faudrait savoir.
Et dans un éclat de rire, voilà que je fous en larmes. Ça me fait trop souffrir. Je me porte comme un chat.
C'est la Java des bipolaires. La vie est rose sur endroit. Mais la vie est grise sur envers. C'est la bipolaire des
la vie.